ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30 temps universel du mercredi 4 avril 2019. Eki Abadou et Eric Manilakiza à la présentation. D'abord les principaux titres.
Premier rapport du crash de l'appareil d'Ethiopian Airlines, les pilotes ont suivi tout le protocole d'urgence.
Génocide au Rwanda de 1994, un reportage sur les orphelins devenus chefs de famille au Rwanda.
Tout ce que mon père pouvait faire ou ma mère pouvait faire revenait à moi. Et aujourd'hui, ils ont grandi, ils ont leur famille. Seul le dernier, il a un enfant mais n'est pas encore marié.
Au Tchad, les membres de la CENI ont prêté serment devant la Cour suprême.
En Libye, le maréchal Khalifa Haftar ordonne à ses forces d'avancer vers Tripoli.
Le Congrès américain exige de Trump l'arrêt de tout engagement militaire au Yémen.
Dans 10 minutes, l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal.
Les pilotes du vol Ethiopian Airlines qui s'est écrasé le 10 mars faisant 157 morts ont exécuté à plusieurs reprises les procédures d'urgence recommandées par Boeing selon un rapport préliminaire sur les causes de ce crash qui a provoqué l'immobilisation au sol des 737 MAX à travers le monde. Précision avec Nathalie Barge.
L'équipage a réalisé à plusieurs reprises toutes les procédures fournies par le constructeur. Mais il n'a pas été en mesure de reprendre le contrôle de l'avion, a déclaré la ministre éthiopienne des Transports, Dagmawit Moges, lors d'une conférence de presse. Le rapport préliminaire présenté à Addis Abeba recommande que le système de gestion de vol de l'avion soit revu par le fabricant américain, a-t-elle ajouté. Les autorités de l'aviation devront vérifier que la révision du système de gestion de vol de l'avion a été correctement effectuée par le fabricant, avant que la flotte des Boeing 737 MAX soit autorisée à voler à nouveau, a insisté la ministre. La ministre a évoqué un mouvement de piquet répété de l'avion, sans toutefois faire référence au système de stabilisation de l'appareil, soupçonné d'avoir joué un rôle clé dans l'accident et qui avait déjà été mis en cause dans celui d'octobre de la compagnie indonésienne Lion Air. La société Boeing a indiqué qu'elle allait examiner le rapport.
En Libye, le maréchal Khalifa Haftar a ordonné aujourd'hui à ses forces d'avancer en direction de la capitale. De son côté, le chef du gouvernement d'Union nationale demande aux forces loyalistes de se tenir prêtes pour faire face à toute menace. Et en visite dans le pays, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit préoccupé par le risque de confrontation. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Je suis vivement préoccupé par le mouvement de troupes en Libye et le risque de confrontation, a écrit Antonio Guterres sur son compte Twitter. Il a appelé au calme et à la retenue, réaffirmant qu'il n'existait pas de solution militaire en Libye. D'après le patron de l'ONU, seul le dialogue inter-libyen peut résoudre les problèmes libyens. L'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar a annoncé hier qu'elle préparait une offensive pour purger l'ouest du pays, dont la capitale Tripoli. Une colonne de véhicules armés est arrivée au sud de la ville de Gariane, à 120 km au sud-ouest de Tripoli. Le chef du gouvernement d'Union nationale, Faez al-Sarraj, a dénoncé une escalade et des déclarations provocatrices. Il dit avoir ordonné aux forces pro-gouvernement d'Union nationale de se tenir prêtes pour faire face à toute menace. Cette montée de tension intervient à quelques jours de la tenue d'une conférence nationale sous l'égide de l'ONU du 14 au 16 avril prochain. Deux autorités se disputent le pouvoir en Libye, le gouvernement d'Union nationale de Faez al-Sarraj, établi en 2015 en vertu d'un accord parrainé par l'ONU, est basée à Tripoli et une autorité rivale installée dans l'Est et contrôlée par le maréchal Khalifa Haftar.
Les forces pro-Haftar affirment que leur offensive vise à purger l'Ouest libyen des terroristes et des mercenaires sans identifier davantage leur cible. Le maréchal Haftar a toutefois promis d'épargner les civils, les institutions de l'État et les ressortissants étrangers.
Au Mali, plusieurs milliers d'habitants du pays d'Ogon dans le centre ont manifesté pour réclamer que l'État assume ses responsabilités en matière de sécurité, a-t-on appris auprès des organisateurs. Par ailleurs, l'armée malienne a annoncé dans un communiqué avoir repoussé mercredi soir des attaques dans une série de villages de ce secteur.
Au Niger, 88 civils ont été tués dans le sud-est du pays dans des attaques de Boko Haram et plus de 18 000 personnes ont été contraintes de fuir leur village dans le seul mois de mars, a indiqué l'ONU.
Au Cameroun, la tension persiste dans les deux régions anglophones. Les séparatistes ont appelé à 10 jours de ville morte dans plusieurs localités et plusieurs coups de feu ont retenti à Boya. On déplore au moins une personne tuée.
Au Burkina, l'opposition s'inquiète de la multiplication des affrontements intercommunautaires dans le pays après des représailles consécutives à une attaque djihadiste ayant fait 62 morts. Le président Roch Marc Christian Kaboré a promis une enquête sur les circonstances de ces événements pour sévir contre les coupables.
En Algérie, la mobilisation ne faiblit pas. Les Algériens contestent le processus d'intérim prévu par la Constitution qui se met en place à la suite de la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Ces derniers promettent de continuer à défiler en masse pour obtenir la chute totale du système.
En Guinée, l'opposition, les associations de la société civile et les syndicats ont créé une coalition pour empêcher le président Alpha Condé de briguer un troisième mandat en 2020. Le chef de l'opposition, Selou Dalein Diallo, a lancé un appel aux membres des forces de défense et de sécurité de s'inspirer du comportement de leurs collègues d'Algérie en référence au départ du président Bouteflika sous la pression populaire. Monsieur Condé a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats sur le continent.
Dispersion à Cotonou, des manifestations. Les partisans de plusieurs partis de l'opposition protestaient contre leur exclusion des élections législatives prévues à la fin du mois. Clairement Gébourg.
Le ton avait été donné hier soir. C'est un appel à la résistance, ont lancé les leaders de l'opposition lors d'une conférence de presse. Le FCBE, le parti de l'ancien chef d'État Thomas Boniayi, et le PLP ont appelé leurs supporters à manifester et à envahir le siège de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Les rassemblements ont été dispersés avant même leur départ par la police et l'armée. Plus tard dans la matinée, le centre de Cotonou était toujours quadrillé par d'importants détachements des forces de l'ordre lourdement armés. À l'intérieur du pays, d'autres manifestations ont néanmoins pu avoir lieu, notamment dans les communes de Djakotomé et Kloakanmé, où quelques centaines de militants sont sortis dans les rues. Début mars, la Sénat avait estimé que seuls deux partis proches du président Talon pouvaient présenter des listes excluant de facto toute l'opposition. Les électeurs béninois sont appelés aux urnes le 28 avril pour des législatives.
Génocide au Rwanda de 94, l'association Survie a lancé une campagne intitulée 25 ans d'impunité pour dénoncer les complicités françaises. Survie affirmait lutter contre toutes les formes d'intervention néocoloniale en Afrique et publie vendredi un rapport intitulé Déni et non-déni, 25 ans de mensonges et de silence complice sur la France et le génocide des Tutsis du Rwanda.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Congrès américain a approuvé aujourd'hui une résolution exhortant Donald Trump à arrêter tout soutien à la coalition saoudienne dans la guerre au Yémen. Abdourahmane Dia.
En limitant les pouvoirs présidentiels en matière d'engagement dans des conflits à l'étranger, ce vote marque une première historique. L'auteur de cette résolution est le sénateur Bernie Sanders, également candidat à la primaire démocrate. Nous nous sommes clairement élevés aujourd'hui contre la guerre et la famine et en faveur des pouvoirs militaires du Congrès en votant la fin de notre complicité dans la guerre au Yémen, a-t-il affirmé. La Chambre des représentants, à majorité démocrate, a voté le texte à 247 voix pour, 175 contre. Le texte avait déjà été approuvé par le Sénat. Au moins une quinzaine d'élus républicains de la Chambre ont approuvé la proposition de loi. C'est un revers pour le président Trump qui va probablement utiliser son droit de veto présidentiel afin de bloquer cette mesure. Avec cette résolution, le Congrès exige au président de retirer les forces armées américaines des hostilités dans ou affectant la République du Yémen sous 30 jours après l'adoption du texte. Seule exception, les opérations visant Al-Qaïda et ses groupes affiliés.
La Belgique a officiellement présenté ses excuses pour les injustices subies par les milliers d'enfants métis nés en Afrique de père belge pendant la période coloniale. Ces enfants ont été arrachés à leur mère congolaise, rwandaise et burundaise pour être placés à l'écart de la population. Pour François Dadeski, cofondateur de l'association Métis de Belgique, ces enfants sont entre 14 000 et 20 000 nés dans ces trois pays. La plupart n'étaient pas reconnus par leur père et ne devaient se mêler ni aux Blancs ni aux Africains, ce que le Premier ministre belge Charles Michel a qualifié de ségrégation ciblée.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Multéco signée Morgane Guiriac.
Le 7e sommet des pays africains producteurs de pétrole est en cours à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Plusieurs ministres des hydrocarbures et représentants de compagnies pétrolières du continent sont réunis jusqu'à vendredi. Le président équato-guinéen a plaidé en faveur d'un changement de politique dans la gestion des ressources. Teodoro Obiang-Nguema a exhorté les pays africains à adopter des politiques communes, notamment pour s'affranchir de la dépendance aux économies des pays développés. Les pays producteurs de pétrole du continent africain ont subi de plein fouet la chute des prix du baril en 2014. Si le cours de l'or noir est depuis remonté, il n'a toutefois pas retrouvé son niveau d'avant la crise. L'économie tchadienne reste soumise à de nombreuses pressions malgré une hausse des recettes pétrolières en 2018 et les réformes mises en place par les autorités. Telle est la mise en garde lancée par le FMI. L'institution souligne que le secteur non pétrolier n'a cru que de 0,5%, exposant encore plus le pays aux fluctuations des cours du pétrole. La reprise économique continue d'être freinée par une importante dette intérieure, juge le FMI. L'augmentation de 90% des tarifs sur l'eau a par exemple entraîné une hausse de 4% du taux d'inflation moyen du Tchad en 2018, ce qui est au-dessus de la norme communautaire de la zone CEMAC, 3%. Cependant, pour 2019, l'institution table sur une croissance forte, tout en invitant les autorités à mieux développer le secteur non pétrolier. Pour cette année, l'économie devrait croître de 3,6% contre une estimation de 3,5% en 2018.
Place à présent à notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
Du football féminin pour commencer, le Mali a remporté le premier acte des éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020.
Oui, victoire des Aigles Dames 3-1 face à leurs homologues du Maroc au stade Mamadou Konaté de Bamako. Salimata Diarra a débloqué le tableau d'affichage pour le Mali avant que l'attaquante du Besiktas de Turquie, Aissata Traoré, ne double la mise. Puis Salimata Diarra, l'attaquante de l'AS Mandé, a porté le score à 3-0. Le Maroc a réussi à réduire la marque par Najat Badri. Score final 3-1 pour le Mali, qui fait ainsi un grand pas vers les Jeux Olympiques Tokyo 2020, au grand bonheur de son coach Ousseini Saloum Mohamed.
Ça a marché, on aurait dû faire plus. N'eût été la maladresse des joueuses, même si quelque part nous avons encaissé. Bon, c'est un match de football.
En face, les Marocaines ne s'avouent pas vaincues et comptent refaire leur retard. À domicile ce dimanche 7 avril, Karim Ben Chérifa, coach du Maroc.
Ce n'est qu'une première phase pour nous. Bon, j'ai eu beaucoup d'enseignements. On savait qu'on va jouer une équipe forte du Mali qui a construit une bonne réputation lors de la dernière CAN, qui monte dans le classement FIFA mondial et qui a beaucoup d'éléments qui commencent à sortir en dehors du Mali en Europe et qui amène avec elle beaucoup d'expérience. La sélection marocaine a produit un beau football. Donc je suis très optimiste par rapport au retour au Maroc.
Tous ces propos ont été recueilli par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Le Sénégal, toujours premier en Afrique selon la FIFA.
Oui, le classement FIFA de ce mois confirme la première place du Sénégal dans la zone Afrique devant la Tunisie, deuxième et le Nigeria qui double le Maroc sur la troisième marche du podium continental. Le top 5 africain est complété par la République démocratique du Congo. Au niveau du top 10 mondial, les trois premiers restent les mêmes. La Belgique est en tête, suivie par la France et le Brésil. L'Angleterre arrache la quatrième place à la Croatie qui se retrouve cinquième. L'Uruguay est sixième alors que le Portugal recule d'une place et est désormais septième.
Tottenham affiche des profits records en Première Ligue.
Et oui, les Spurs ont enregistré des profits d'environ 132 millions d'euros la saison passée, un record dans le monde du football. La relative faiblesse de sa masse salariale a permis à Tottenham de réaliser ce bénéfice, mais les coûts de son nouveau stade ultramoderne inauguré hier ont dépassé le milliard d'euros. Tottenham n'a pas recruté de nouveaux joueurs cet été ni cet hiver, une première dans l'histoire de la Premier League. Les revenus du club sont passés de 310 millions de livres en 2016-2017 à 381 millions la saison passée.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manilakidza et Kia Badou. À présent, les dossiers du jour.
Suivons notre dossier concernant le Rwanda qui compte parmi les survivants du génocide des orphelins qui se sont sacrifiés pour aider les autres pour subvenir aux besoins de leurs frères et sœurs. Ils ont dû apprendre, parfois à 10 ans, à jouer le rôle des parents tués. Idriss Fall, notre envoyé spécial à Kigali, s'est rendu dans un village abritant ses enfants, chefs de ménage devenus des adultes. Voici son reportage.
Le génocide rwandais a laissé bon nombre d'enfants orphelins de père et de mère. Ainsi, beaucoup d'enfants sont devenus chefs de ménage et sont maintenant aidés dans leurs tâches par l'association Maïcha Africa.
Je m'appelle Rugera Jean-Claude et je suis le coordinateur de l'association Maïcha Africa qui a été créée par la Miss France Sonia Roland. Cette association, après le génocide, nous avons un groupe des enfants qu'on a aidés à refaire leur maison qui sont les enfants chefs de ménage. Ici à Kinyinya, nous avons 40 enfants. De l'autre côté, à peu près une trentaine à Kimirongo.
Emmanuel Nyon Zima, à l'âge de 14 ans, devait déjà prendre en charge l'éducation de 5 frères et sœurs, tous orphelins.
J'ai perdu mes parents et j'étais l'aîné. Donc, j'ai pris la responsabilité d'être le chef de ménage, puisqu'il me restait 5 enfants, donc 5 de ma famille. C'était prévisible, j'étais l'aîné. Alors, c'est à moi qui devait apporter de l'éducation à ces enfants pour leur dire de rentrer tôt, pour leur dire d'aller à l'école, de faire les devoirs, pour la discipline. Tout ce que mon père pouvait faire ou ma mère pouvait faire revenait à moi. Et aujourd'hui, ils ont grandi, ils ont leur famille. Seul le dernier, il a un enfant, mais il n'est pas encore marié.
Comment est-ce que vous avez fait pour les nourrir, les loger, les habiller?
Au départ, bien sûr, c'était un don du gouvernement. Pour les maisons, c'est le gouvernement qui construit ces maisons, juste après le génocide, avant bien sûr que cette association ne vienne en aide.
Je m'appelle Marte Gataraï.
Et j'étais le grand, parce que les petits, l'un avait 6 ans, l'autre avait 7 ans. Donc j'étais le grand, puisque j'avais 10 ans.
Est-ce que vous avez pu asseoir votre autorité à 10 ans sur des enfants qui ont 6 ans?
Il y avait un parent qui nous assistait et qui m'entraînait à devenir chef de ménage et qui me disait comment faire, comment traiter mes petits frères, et il m'a aidé beaucoup pour asseoir mon autorité. Si mon projet c'est de fonder mon foyer, je veux me marier très bientôt.
Comment est-ce que vous avez perdu vos parents pendant le génocide?
Nous étions ensemble, nous étions rassemblés dans une église. Ils nous ont trouvés là-bas et ils ont tué tout le monde. Ça, je me rappelle très bien. Et
comment est-ce qu'il a survécu alors?
C'est la grâce de Dieu. Certains ont pu fuir. On les a tirés dessus. Beaucoup de balles. Certains sont tombés. D'autres ont été sauvés, dont moi.
Depuis Kigali, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, poursuit sa toute première visite officielle aux États-Unis. Il a rencontré hier le secrétaire d'État Mike Pompeo. Aujourd'hui, il s'est entretenu avec des membres du Congrès et le directeur adjoint de la CIA. Que traduit cette visite dans les relations entre Washington et Kinshasa? Eddie Sango, adjoint un des chargés de la communication du président Tshisekedi, Valéry Giscard Koussema.
Tout avait commencé avec le secrétaire d'État à l'énergie, M. Rick Perry. Tout le potentiel de la République démocratique du Congo, les échanges ont porté essentiellement sur le projet Inga, dont on dit qu'il est le plus grand et qui peut alimenter une bonne partie du continent africain. La deuxième personnalité officielle à recevoir les chefs de l'État, c'est le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. M. Nagy, au nom de l'administration américaine, a fait une très grande déclaration pour dire que 2019 est l'année de la République démocratique du Congo et il a justifié toutes les raisons de ce couronnement, tous les faits et gestes posés par les chefs de l'État depuis son avènement. Il a parlé de la lutte contre la corruption, de la liberté d'expression, de tous ces efforts qui sont entrepris, les relations diplomatiques, la normalisation avec le pays voisin, son élection à l'Union africaine comme deuxième vice-président. L'autre personnalité la plus importante, c'est aussi M. Pompeo, qui est le chef du département d'État. Et là également, les communiqués sortis du département d'État montrent qu'il y a une grande satisfaction pour les États-Unis par rapport à tout ce qui a été fait par le chef de l'État depuis son avènement. Ce matin, il a été avec les sénateurs Nofi, tout le monde le sait, c'est le responsable de la commission de l'armement et des armées, mais surtout c'est lui qui organise toutes les journées nationales de prière au mois de février de chaque année. Le président américain, tout son gouvernement, les parlementaires viennent participer pour glorifier Dieu d'avoir fait des États-Unis la première puissance mondiale.
Qu'est-ce qu'on peut dire des relations entre les États-Unis et la RDC?
Il y a un pas de plus qui est fait. La première symbolique, c'est d'abord le fait que ce soit le premier pays, et c'est la première puissance mondiale, qui s'est exprimé clairement sur l'élection du chef de l'État, pendant que d'autres pays hésitaient encore.
Qu'est-ce qui change par rapport à ce qui était depuis quelque temps?
D'abord, l'acceptation même. Vous le savez, qu'il y a beaucoup de personnalités du régime sortant qui sont sous sanctions américaines et qui ne peuvent pas venir ici, en dehors de tout ce qu'il y avait comme réunion protocolaire. Mais ce qui change, c'est aussi cette volonté des investisseurs américains de pouvoir venir en République démocratique du Congo. Hier, le chef de l'État était devant la Chambre du commerce. En tout cas, cela est repris également dans un communiqué officiel du département pour dire que tout ce qui s'est fait, c'est pour le bien du peuple congolais.
Valéry Giscard Koussema, un des chargés de la communication du président Tshisekedi.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde. Au Tchad, le président de la CENI, Kodi Mahamat, et les 30 membres de cette commission ont prêté serment aujourd'hui à N'Djamena devant la Cour suprême. Les partis de l'opposition qui avaient menacé de geler leur participation au CNDP, le cadre national de dialogue politique, ont finalement laissé leurs représentants prêter serment. De N'Djamena, la correspondance d'André Komanjingar.
Ces deux individus qui sont à la manœuvre de ce que vous appelez le gel de la participation de la composante opposition au CNDP.
Aladom Djarma Baltazar, rapporteur général du CNDP, cadre national de dialogue politique et porte-parole du Front pour le changement et l'alternance démocratique, un regroupement de l'opposition. Il fait allusion au chef de l'opposition tchadienne, Saleh Kebzabo, qui a signé un communiqué de presse demandant aux représentants de l'opposition qui siègent au CNDP de geler leur participation pour protester non seulement contre la désignation de Kodi Mahamat comme président de la CENI, mais aussi pour réitérer l'annulation du décret 216 portant composition de 30 membres de la CENI, dont 15 de la majorité et 15 de l'opposition. Aladom Djarma Baltazar estime que cette stratégie est un film habituel de la vieille classe politique.
Il gèle donc, c'est une suspension. Je ne pense pas que les plus hautes autorités puissent continuer à laisser faire le jeu. Les gens, c'est parce qu'ils ont un carnet d'adresse qu'ils veulent s'imposer à tout le monde et ils pensent que le reste constitue leur bataillon, donc c'est des soldats qu'on doit instruire. La politique, ce n'est pas l'armée. S'ils veulent faire du carrière dans l'opposition, ils doivent comprendre que plusieurs loups comme eux guettent à la porte. Il y aura sûrement des carreaux qui vont être remplis.
Mahamat Amat Alabo, membre du front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, qui accepte geler sa participation au CNDP dont il en est le vice-président, déplore le comportement de ses compagnons qui font le jeu du pouvoir.
Il y a un certain nombre de partis politiques représentés au CNDP qui, à tous les coups, prennent position avec la majorité. Ils ils se disent de l'opposition, mais ils sont beaucoup plus proches de la majorité. Nous, nous prenons acte. Dans tous les cas, ce n'est pas la majorité qui désigne les représentants de l'opposition au CNDP. S'ils veulent faire la même chose comme ils l'ont fait à la CENI, là, c'est une violation absolue de la loi. On en verra.
Pour Jean-Bernard Padare, secrétaire national chargé des groupements sociaux professionnels du MPS parti au pouvoir, l'opposition fait de la gesticulation.
Ce n'est pas parce que un ou deux membres futiles, imminents de l'opposition réclament qu'on doit remettre en cause ce qui a été unanimement fait. Ça fait depuis longtemps que le président de la République avait annoncé qu'on ira aux élections législatives. Les gens sont en train de tergiverser pour qu'on n'y aille pas. Nous, nous sommes fin prêts et il y aura élection, qu'on le veuille ou non.
C'est sous ce climat de tension politique que les 31 membres de la CENI, y compris le président de cette institution, Koudi Mahamat, récusé par une partie de l'opposition tchadienne, ont prêté serment ce jeudi 4 avril devant la Cour suprême. André Kodmadingar Ndjamena, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
70e anniversaire de l'Alliance Atlantique à Washington. Devant les ministres des Affaires étrangères alliés, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a de nouveau accusé la Russie de violer le traité de désarmement sur les armes nucléaires de portée intermédiaire et a appelé Moscou à le respecter. Nathalie Barge a joint l'expert en défense et relations internationales à l'IRIS à Paris, le général Jean-Vincent Brisset.
On est sur un traité qui est un petit peu dépassé sur le plan technique. Chacun pense qu'il est contourné, contournable, parce qu'il est plus adapté et que chacun veut moderniser un certain nombre de choses, ce qui fait sortir de normes qui ont été adoptées il y a trop longtemps. C'est simplement des modifications dans l'armement. Ça augmente l'efficacité des armements existants, en échange de quoi le nombre d'armes continue de diminuer.
La dispute avec la Turquie qui, elle, veut s'équiper d'armements américains et russes, ce qui ne plaît pas beaucoup aux États-Unis. Comment sortir de cette impasse, selon vous ?
C'est un problème avec le F-35 et les missiles S-400 côté russe. Le problème, c'est que le F-35, c'est un avion qui a plus de qualité que ce que disent les médias dans beaucoup de pays, à part le fait qu'il est horriblement cher, mais qui a comme principal intérêt d'être entièrement intégré dans toute la gestion du champ de bataille. Et si on intègre dans sa gestion du champ de bataille des matériels russes, il y a des incompatibilités, ou bien on est obligé de faire des bricolages qui vont compromettre la capacité de transmission de données du F-35 et donc compromettre un avion qui est destiné à beaucoup de pays de l'OTAN. J'ai cru comprendre que les pilotes turcs qui étaient en entraînement aux États-Unis vont quitter l'entraînement sur F-35 aux États-Unis. Donc j'ai l'impression qu'on se dirige, au moins pour un certain temps, vers un arrêt de la vente de F-35 à la Turquie. Qui pose des tas de problèmes parce qu'il y a un certain nombre de morceaux du F-35 qui sont fabriqués par les Turcs et aussi parce que les S-400 achetés aux Russes sont déjà arrivés.
Quant aux dépenses militaires, c'est encore l'Allemagne qui est mise au banc des accusés, notamment l'OTAN lui a rappelé de participer un petit peu plus. Pourquoi l'Allemagne ne met pas plus d'argent dans cette organisation ?
L'Allemagne n'est toujours pas sortie d'une certaine réticence vis-à-vis de tout ce qui est militaire. Ça va beaucoup plus loin que le problème strictement gouvernemental. C'est vraiment une armée qui n'est pas destinée à combattre l'armée allemande pour le moment. Donc il y a à la fois un problème matériel et un problème politique avec elle.
70 ans d'OTAN, qu'est-ce que cette alliance a réalisé jusqu'ici au niveau sécuritaire ?
Pour avoir été pilote dans l'armée de l'air et directement opérationnel, la grosse chose pour l'OTAN, c'est d'avoir rendu compatibles à tous les niveaux les militaires de tous les pays membres de la coalition. Puis ensuite, l'OTAN, il y a deux périodes dans l'OTAN. Il y a la période de l'Union soviétique et puis de l'OTAN destinée à contrer l'Union soviétique. Puis la deuxième période, c'est qu'est-ce qu'on fait après l'effondrement de l'Union soviétique ? Est-ce qu'on va contrer la Russie, ce qui est en train de redevenir maintenant, ou est-ce qu'on va faire des opérations très loin, en dehors du territoire prévu pour l'utilisation de l'OTAN, avec par exemple des opérations comme l'Irak, où l'OTAN n'a pas participé parce qu'il y a un certain nombre de membres qui ne voulaient pas, ou l'Afghanistan, où par contre là, l'OTAN s'est engagé en tant qu'OTAN.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Cheikh Chiro. À la console, Zorniak Wojtaik. À la présentation, Ekia Badou et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente suite des programmes sur VO Afrique. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.